Bienvenue dans le tout premier épisode de ce podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui a atteint une certaine forme de liberté grâce au code. Cette semaine, j'ai le plaisir d'échanger avec Graven, un créateur de contenu, formateur, entrepreneur, bref, on ne peut pas vraiment le catégoriser dans une boîte car il s'investit dans pas mal de projets pour aider les jeunes et les moins jeunes à apprendre la programmation. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement. Et en attendant, moi je vous laisse apprécier notre échange avec Graven. Alors salut Graven, merci d'être là aujourd'hui, d'être l'invité d'un de ces premiers épisodes du podcast. C'est un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que je regarde un peu ce que tu crées sur YouTube notamment. Donc c'est un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Avant qu'on commence à discuter un peu voilà, de sujets plus ou moins profonds, on va dire. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, nous dire ce que tu fais aujourd'hui comme activité ?
Ok, alors du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Graven, donc du coup, j'ai 21 ans. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais de la programmation, hein, 5-6 ans, depuis 2013 que je m'y intéresse, et on va dire, voilà, 5-6 ans que je commence à y travailler un peu plus sérieusement. Donc, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je travaille depuis maintenant quelques années, sur laquelle je vais apprendre aux autres à programmer ou alors à s'intéresser au domaine du dev, tout simplement.
Ok, et effectivement, j'ai vu qu'il y a pas mal de... Il y a beaucoup, beaucoup de contenu sur ta chaîne YouTube. Il y a deux types principaux de vidéos. Il y a beaucoup de tutoriels sur plusieurs langages, et il y a également des vidéos plus sous format reportage. Et c'est ça que je trouve assez intéressant dans ta chaîne YouTube, c'est que d'une part, tu apprends aux étudiants, on peut les appeler comme ça je pense, aux futurs développeurs, à acquérir des compétences de base en programmation, mais en plus de ça, tu fais l'effort, j'ai vu notamment que tu étais aller sur plusieurs salons et que tu avais fait des mini-reportages sur ta chaîne YouTube pour voilà, partager un peu, montrer un peu à quoi ressemblent les métiers de développeurs ou en tout cas tous les métiers qui touchent de près ou de loin au digital. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur cette chaîne YouTube, de commencer à partager ton expérience sur cette chaîne YouTube ?
Alors du coup, quand j'ai commencé ma chaîne, c'était principalement pour montrer ce que je savais faire en Java. Donc j'avais commencé par ce langage pour faire mes premiers projets. C'était sur le jeu Minecraft avec des plugins. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait me lancer sur YouTube. Puis après, on m'a conseillé de faire d'autres formats, comme une série sur comment créer un site web. Puis après, une série sur les créations d'applications mobiles. Donc petit à petit, en fait, je suis parti du contexte de base qui était on va apprendre un langage particulier et faire une seule chose à plusieurs langages. Et un petit peu après, ça s'étendait à la programmation. Et maintenant, on essaie de s'étendre un petit peu plus loin au niveau du numérique, finalement. Donc pas rester que sur de la programmation, mais voir un petit peu tout ce qui s'y rattache, finalement, parce que c'est aussi important pour un développeur d'avoir une vision assez globale sur ce qu'il y a autour, donc que ce soit au niveau du design, au niveau de comment on gère un projet, voilà, tout ça c'est des compétences que j'essaye de mettre en avant sur ma chaîne pour pouvoir déjà susciter l'intérêt des personnes qui veulent apprendre dans un premier temps, puisque ma cible c'est principalement les débutants, et d'autre part pouvoir être intéressé, enfin pour moi, pour pouvoir me challenger sur des projets et sur le côté pédagogie.
Ok, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu disais justement je me lance dans telle thématique, sur tel langage de programmation, et ensuite, comme on me demande de faire des tutos sur du Python, sur du Java, sur des autres technologies que j'abordais pas jusqu'à maintenant sur ma chaîne YouTube, tu t'es dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Comment tu as vécu ces différentes expériences, entre guillemets ? Est-ce que c'était des langages, des technologies que tu ne connaissais pas du tout et tu t'es dit j'aime apprendre des nouvelles choses, j'aime enseigner, du coup je vais faire l'effort d'apprendre des nouvelles compétences pour ensuite les enseigner, ou alors tu t'es cantonné entre guillemets à ce que tu maîtrisais déjà et t'as couvert comme ça un peu tout le champ de tes compétences, même si je pense pas qu'on puisse couvrir tout le champ de ses compétences, mais est-ce que t'as fait l'effort d'apprendre pour ensuite enseigner, ou alors est-ce que c'est justement quelque chose que tu connaissais déjà?
Alors au tout début de ma chaîne YouTube, c'était principalement des choses que j'apprenais et on va dire le jour d'après, je montrais en vidéo parce que ça me faisait kiffer de montrer ça sous un format un petit peu instructif. Maintenant, aujourd'hui, la communauté est beaucoup plus grande, on a beaucoup plus de sujets à traiter et donc forcément je peux pas tout maîtriser ou du moins pas tout à différentes échelles. Donc maintenant, je fais des sujets sur des choses que moi j'ai envie principalement. Donc je fais quelques suggestions sur la chaîne, mais globalement c'est moi qui ai le dernier mot là-dessus. Et ensuite je fais pas mal de travail de R&D, j'ai changé ma manière de produire les vidéos. Donc avant c'était vraiment, j'avais une idée, je la faisais et voilà, je lançais mon record et puis voilà, je faisais même pas de montage. Et maintenant il y a vraiment une grosse démarche projet qui est derrière. Pour que ce soit qualitatif, aussi bien sur l'écriture du texte. Donc avant même d'écrire le texte, la première étape, c'est de trouver un sujet qui m'intéresse. Je vais commencer par faire un petit peu de recherche et développement dessus, de la R&D, pour voir quel projet va être à la fin de ce tuto, par exemple, pour éviter de partir n'importe où. Parce qu'il y a beaucoup de tutos sur Internet où on part un petit peu n'importe où parce qu'on veut montrer une notion, mais le parcours qui est dans la vidéo va peut-être faire perdre un petit peu d'autonomie aux personnes, d'une part, et aussi ça va peut-être les décourager à un moment. Alors que si du début à la fin, je sais quelle erreur je vais faire à tel moment, ça va me permettre de rebondir. Donc en fait, le format, c'est avant, c'était comme d'autres tutos, tu avais un sujet, et en fait, bah, je faisais la vidéo, je savais à peu près où j'allais, mais globalement, dès que je tombais sur une erreur, c'était ah bon, du coup, on va résoudre ça, voilà. Alors que maintenant, en fait, je construis la vidéo de telle sorte à pas juste montrer une procédure d'étape et que ça marche du premier coup, mais en fait, je montre des étapes et après, je fais exprès en fait de montrer une erreur qui peut apparaître pour pouvoir rebondir dessus et montrer un moyen de la corriger ou de pouvoir refactoriser la notion. Donc comme ça fait des développeurs qui regardent mes formations, des développeurs un petit peu plus autonomes sur ce point-là, alors qu'avant c'était vraiment tu recopiais le code et si ça marchait pas, bah tant pis. Là, on a ce côté-là qui est intéressant et qui permet, bah, par exemple, sur ma série Comment créer un jeu en Python avec Pygame, j'ai des projets vraiment très différents de ce que je montre dans la vidéo parce que les gens ont compris que c'était des briques de notions et pas juste une procédure pour arriver à un jeu, en fait.
Ok, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis sur le fameux trial and error, donc le fait de passer par des erreurs et de se confronter à des petits murs ou à des petits obstacles avant de résoudre un autre problème, parce que je pense que on peut très facilement tomber, quand on est un apprenti développeur, qu'on apprend la programmation, on peut très facilement tomber dans cette croyance que tout est facile, c'est-à-dire qu'un développeur, hop, il a une idée, que ce soit quelque chose de visuel, que ce soit un algorithme, le résultat d'un algo, il a une idée et il se dit, ok, on va faire ça, 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 ça et ça, il écrit son code et ça marche du premier coup. Alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de mèmes sur Internet qui font comprendre que quand ça marche du premier coup, c'est qu'il y a un problème, mais c'est vrai qu'on peut facilement tomber dans cette croyance en suivant notamment des formations. Et c'est vrai que moi aussi, quand j'ai créé mes toutes premières formations, je suis tombé dans le piège de faire un plan avant et de me dire, ok, je veux écrire le code final parce que je ne veux pas me tromper durant l'enregistrement de ma vidéo. Et ça m'a, je suis tombé dans ce piège-là. Et les étudiants, les personnes qui suivaient mes formations, ok, ils ont tout de suite la bonne réponse. Mais je pense que le plus important quand on apprend la programmation, et je pense que c'est valable dans beaucoup de domaines, c'est de se rendre compte, c'est de comprendre en fait le processus plutôt que d'arriver au résultat directement. Ok. Et je vois que tes activités, en tout cas, sont principalement centrées autour de l'enseignement, de la transmission de connaissances. Si je ne me trompe pas, tu fais. T'as plusieurs autres activités à côté qui sont autour comme ça de la transmission de connaissances, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors du coup, moi j'ai quatre activités. Donc j'ai la création de vidéos sur YouTube en activité principale. À côté, du coup, je fais des cours d'informatique pour les enfants dans une académie sur Paris qui s'appelle Tech Kids Academy. On donne des cours de robotique, d'électronique, de design et puis d'autres choses. Et après, comme autre activité qui se rattache un petit peu au domaine de l'éducation, mais qui un petit peu sorte du scope de l'informatique, je suis animateur en village vacances et je suis aussi jongleur, donc je fais des spectacles.
Ok, top. Du coup, là, c'est vrai que ça fait pas mal d'activités. Alors, effectivement, des activités qui ont tous, on va dire, un point commun. Comment tu pourrais nous décrire tes journées? Alors, je suppose que on peut pas décrire une journée type quand on a un profil assez entrepreneur comme le tien. Mais est-ce que tu pourrais nous décrire peut-être une, deux ou trois journées types?
Alors, en fait, donc les journées types, c'est en fonction de moi ce que j'ai envie de faire. En général, tout se passe sur mon tableau parce que j'ai un tableau blanc chez moi où vraiment je passe toute ma journée puisque c'est là où tout va se faire et tout le programme va se faire. Au début, j'étais parti sur des choix qui étaient plus des trucs comme Trello pour gérer le projet. Mais finalement, il n'y a rien de mieux que des post-it et un tableau de blanc pour se préparer. Donc première journée que je peux construire, ça va être journée où je vais faire à la fois de la préparation de vidéos et de la prog, donc pour pouvoir aussi enseigner. Maintenant je fais aussi des cours particuliers en plus, donc ça se rentre un petit peu dans ce cadre. Après il y a des journées où je peux faire un mix des deux. Par exemple, je peux faire une journée où je fais à la fois les cours, puis le soir je prépare une vidéo, ou alors un cours particulier le matin et l'après-midi je vais faire une activité pour préparer une autre vidéo. Voilà, c'est plus de la préparation sur principalement mes journées puisque c'est ça qui demande plus de trucs. Le tournage, j'ai plus tendance à le faire le soir vers 22h30, 23h, donc ça rentre pas dans le cadre de ma grosse partie de la journée, mais c'est vraiment très très varié, ça peut être très différent. En fait, je veux pas me bloquer comme certains entrepreneurs font à se forcer un planning. Alors forcément, ça va jouer sur la productivité, hein. Je suis pas quelqu'un d'ultra productif, mais au moins je me force pas. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et maintenant avec YouTube, j'ai la possibilité d'avoir cette liberté. Si je sorte, tu vois, j'ai pas de deadline puisque je me rends les projets à moi-même. Si je sors une vidéo, bah je sais que si je la sors pas demain, c'est pas grave. Je vais pas avoir une perte sur mon salaire ou alors un client qui va être pas content, tu vois. Après sur d'autres types de projets comme les cours d'informatique, c'est un petit peu plus subtil parce que là, il y a une attente particulière de la part des parents et tout. Et donc du coup, il faut un petit peu plus de rigueur là-dessus. Donc j'ai pas de journée type, mais on va dire, je peux avoir une journée avec un mix de tout ça. Pour la partie artistique, jonglage et tout, là c'est beaucoup plus ponctuel et c'est plus dans le cadre des vacances où j'ai vraiment beaucoup de temps en fait.
D'accord, ouais, effectivement, il y a deux types d'activités dans ton emploi du temps, celles qui demandent beaucoup de préparation, la création de vidéos, aussi éventuellement la création de cours pour les élèves, et ensuite la partie où là, ok, tu as ton rendez-vous pendant une heure, ton animation pendant X heures, et là, effectivement, c'est ok, je rentre dedans et je sais ce que j'ai à faire pendant les X prochaines minutes. Et ce qui est très intéressant, et ça m'a fait rire parce que tu as commencé ta réponse en disant j'organise mes journées comme je veux, et à plusieurs fois, à plusieurs reprises dans ta réponse, tu as utilisé des mots du champ lexical, voilà, de la liberté. Et comment tu vois cette liberté? Est-ce que pour toi, c'était déjà un objectif quand tu t'es lancé? Alors, a priori, de ce que je comprends, tu t'es lancé en premier sur YouTube et après, il y a eu ces activités un peu plus construites, on va dire, qui se sont greffées autour. Est-ce que tu t'es lancé sur YouTube et dans l'entrepreneuriat en te disant « je veux être libre » ou alors c'est après que tu as compris le potentiel en fait de ton activité et que tu t'es dit « ah bah tiens, tant mieux et je vais faire en sorte d'organiser mon quotidien pour être libre ».
Alors en fait, moi du coup, au niveau de mon parcours scolaire, j'ai fait un bac technologique après juste après, j'ai fait un BTS système informatique aux organisations avec l'option développement informatique et le tout en alternance. Donc j'ai fait 2 ans de BTS en alternance et je faisais du coup dans une boîte. Donc je faisais 2 semaines en cours et 2 semaines en entreprise. Et donc c'était en start-up. Je faisais des applications mobiles. La première boîte dans laquelle j'ai travaillé, c'était des applications pour pouvoir un petit peu stimuler la mémoire et tout ce qui se rapproche aux outils cognitifs des personnes en perte de mobilité, en perte d'autonomie. Du coup, les personnes âgées principalement. Et après, c'était sur le diabète. Donc en fait, j'ai fait 2 ans en tant que développeur mobile dans des boîtes comme ça, dans des startups. Et je me suis rendu compte en fait que, ok, ça m'apportait beaucoup d'expérience, mais j'étais quand même limité au fait que je dois répondre à un cahier des charges qui n'est pas forcément celui que j'ai envie de faire, ou alors qui n'est pas forcément en adéquation avec mes envies imminentes, en fait. Donc forcément, c'est ce qu'on retrouve dans tous les milieux, hein. Il y a forcément des choses qui sont intéressantes à faire, d'autres un peu moins. Mais je me suis dit en fait après les 2 ans que j'avais pas envie de continuer là-dessus parce que c'était en fait j'avais vraiment un gros manque d'interaction avec les autres parce que l'interaction dans le milieu du dev c'est un vrai souci. Alors ok tu fais toujours des réunions, des trucs comme ça, mais ça se limite à ça. Donc du coup en même temps à la fin de mon BTS j'ai passé mon BAFA pour être animateur. Et du coup, je l'ai obtenu en début de cette année. Et en même temps, j'ai rejoint du coup Takis Academy. Et j'ai trouvé ce juste milieu qui est pas mal, qui est à la fois de pouvoir faire mes vidéos dans mon coin tranquillement. Ça va me rapporter une base d'argent. Plus, à côté, de pouvoir faire des cours d'informatique pour retrouver aussi ce côté, comment dire? Avoir ce côté plus humain, contact humain, qui manque avec le milieu du dev en entreprise. Et donc du coup, c'était très intéressant aussi d'avoir fait ce choix parce que maintenant, malgré le confinement et cette période compliquée, bah, je peux quand même continuer à faire ça à distance. Bon, c'est pas le même cadre, mais je peux quand même continuer à faire ça à distance. Et c'est vraiment super bien de pouvoir enseigner à des enfants l'informatique parce que ils découvrent ça et du coup c'est encore plus motivant pour moi et pour eux parce que c'est une autre manière d'apprendre encore plus ludique que juste suivre un tutoriel ou montrer aux gens sur YouTube.
D'accord. Et c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que là, on sent en fait que tu as deux activités principales, on va dire, mais les deux se rejoignent. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est je transmets ma passion. Et on sent vraiment quand tu nous racontes tes expériences et tes activités actuelles, on sent vraiment qu'il y a cette envie de partager tes connaissances et que tu as un peu façonner ton quotidien, façonner ta carrière en fonction justement de cette passion-là, parce que c'est plusieurs passions qui au final n'en sont qu'une, et c'est très intéressant. Est-ce que ça a été compliqué pour toi d'abord, première question, est-ce que tu considères actuellement que tes activités quotidiennes, ton quotidien en fait, ta journée type, est-ce que tu considères que elle te convient parfaitement actuellement?
Non, je pense pas. Parce que il y a certains sujets où je manque un petit peu peut-être de rigueur. Parce que le cadre fait que ça. J'habite encore chez mes parents. J'ai un train de vie qui est quand même très très particulier à Paris. Du coup, il y a toujours moyen de trouver mieux, mais pour l'instant, j'en suis pas déplais. Et en fait, on va dire que je suis pas encore dans cet état d'esprit de vouloir absolument un maximum d'activités pour gagner le maximum, mais plus pour essayer de trouver une certaine stabilité dans les projets que j'ai déjà mis en place pour pouvoir les pérenniser, bah voilà, pour faire que ça dure sur le long terme. Parce que c'est bien beau de faire des projets par-ci par-là, de répondre à un client, mais une fois que le client, bah, une fois que tu as fini son projet, tu le revois plus ou presque plus. Alors que là, moi, c'est un projet sur le long terme, et à tout moment, je veux dire, enfin, YouTube, à moins que ça s'arrête un jour, mais globalement, même si ça s'arrêterait un jour, j'aurais moi acquis des compétences que j'aurais pas pu acquérir autre part à travers l'aide avec les abonnés, etc. Et ça m'aura ouvert déjà pas mal de portes en fait. Même si ça s'arrête demain, ça m'aura déjà ouvert tellement de portes que ce serait pas finalement problématique puisque maintenant je peux faire des cours particuliers parce que maintenant je peux faire d'autres formats. J'essaye actuellement d'autres formats, par exemple j'ai fait sur TikTok. Alors ça peut faire rigoler à première vue, mais en fait c'est vraiment intéressant comme format à tester parce que on se concentre sur un certain type, une certaine durée et pour une certaine audience. Donc c'est encore un travail différent qui demande encore plus de rigueur parce que ça se partage encore plus. Donc voilà, je suis un petit peu un bêta-testeur des projets de la vie, tu vois, j'essaye pas mal de choses, et dès que je vois qu'il y a un petit filon et que ça m'intéresse, bon, en fait je me mets à 100% dedans et puis je lâche pas quoi.
Ouais, carrément. Et je rebondis sur ce que t'as dit quand t'as dit je veux avoir plusieurs cartes à jouer, je veux avoir plusieurs cordes à mon arc. Et c'est vrai qu'il faut comprendre pour ceux qui voilà qui sont dans la programmation ou pas, mais qui ont cette envie, cette fibre entrepreneuriale, qui ont envie de se lancer dans un ou deux projets, il faut comprendre aussi que certes, c'est risqué de se dire je plaque tout pour lancer ma chaîne YouTube, je quitte mon job pour lancer mon application mobile, voilà, je quitte quelque chose pour obtenir autre chose. Effectivement, c'est risqué, mais il faut aussi comprendre que, comme tu l'as dit, le fait de se lancer dans telle ou telle activité, même si ça marche pas forcément, alors c'est vrai que dans ton cas, pour YouTube, ça a très bien marché, donc c'est pas vraiment un exemple qui peut appuyer ce que je vais dire.
J'ai commencé YouTube pendant mes études. Donc, je suis pas dans le cadre de quelqu'un qui pourrait faire ça demain en mode tout lâcher et faire sa chaîne YouTube. Je pense que à l'heure actuelle, ça devient beaucoup plus compliqué de se lancer sur YouTube avec l'algorithme actuel. Mais comme j'ai commencé à partir de 15 ans, donc j'étais encore au lycée, fin collège, début lycée, du coup, bah forcément, j'avais. Moi, c'était que du temps libre que je pouvais exploiter à un endroit. Donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas qu'une histoire de chance ou en mode tu lâches tout et puis on verra bien. C'est aussi une histoire de ok, dès que tu as du temps, fais ce qui te plaît et si tu arrives à en récupérer quelque chose sur le long terme, bah, c'est génial parce que du coup, c'est ton petit projet à toi et tu sais que personne pourra faire quelque chose qui ressemble exactement à ce que tu fais. Parce que c'est ta personnalité, c'est tes envies, c'est tes vidéos et tout. Donc c'est cette idée-là un petit peu de oui, il y a de la liberté, oui, c'est une chance d'avoir autant de personnes qui me suivent, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain et c'est pas juste en quittant mon job que j'ai fait ça. J'avais aussi, ça fait maintenant, voilà, ça va bientôt faire 6 ans que je suis sur YouTube.
Ouais, carrément, carrément. Et effectivement, voilà, quand on voit des personnes qui ont atteint le succès, entre guillemets, alors derrière le mot succès, on peut mettre n'importe quelle définition. Il y a autant de définitions du succès et de la liberté que d'individus sur Terre, je pense. Mais effectivement, quand on voit le résultat, en fait, on se concentre que sur le résultat et on a tendance à oublier trop facilement les heures de travail, les heures de passion qui sont derrière. Et il faut aussi comprendre, et ça tombe bien que tu nous dis ça, parce que moi aussi j'ai commencé YouTube, alors beaucoup plus tard que toi, certes, mais j'ai commencé YouTube et cette activité en me disant, je veux avoir la chance d'avoir la possibilité de choisir à la sortie de mes études si j'accepte un CDI, un contrat dans une entreprise ou pas. Et voilà. Alors. Oui, il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui se disent, bah ouais, mais moi j'ai fini mes études, je suis plus étudiant, j'ai peut-être des enfants à nourrir, enfin voilà, j'ai plus autant de temps, certes, mais voilà, il faut aussi comprendre que, enfin, le plus gros risque en fait quand on se lance, c'est de se lancer du jour au lendemain. C'est ça qui peut être risqué et de tout abandonner. Mais il y a d'autres moyens de se lancer, plus transitoires, plus safe, on va dire.
Ouais,
Et ça.
l'important c'est vraiment de nuancer et de faire cette transition progressive et de pas tout de suite tout changer parce que sinon soit la communauté elle suit pas, soit toi t'es perdu, soit tu risques de faire une bêtise. Donc vaut mieux quand même faire ça progressivement. Moi par exemple sur ma chaîne, j'ai pas tout de suite le jour au lendemain changé avec le langage Python. J'ai fait ça progressivement. Et puis même sur d'autres sujets, hein, que ce soit au niveau de la monétisation, tout ça, ça a été mûrement réfléchi avant. Et puis même au niveau du format, c'est quelque chose qui s'est fait sur long terme. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais par contre, je peux comprendre que certains ont peur de se lancer. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que pour ce qui est des étudiants, certains me disent, bah du coup, ouais, on avec les écoles, à l'école, on n'a pas le temps. En fait, c'est pas vrai. Quand tu rentres des cours, tu peux très bien trouver du temps pour ça. Même si tu as une tonne de devoirs, franchement, il y a 24 heures dans une journée. Il suffit de bien planifier ses tâches et il y a moyen de faire ça. Même 30 minutes par jour, programmer un petit peu ou alors faire une petite vidéo sur un sujet qui te tente bien. Un projet que tu as fait, par exemple, les side projects, on en parle beaucoup, mais pour moi, c'est indispensable d'avoir des side projects aujourd'hui. Tu peux être bac plus 5 si tu n'as pas de side project à côté, donc de projets que tu fais pour montrer que voilà, tu n'es pas juste spectateur de ça, mais tu es aussi acteur de cet environnement. Bah, dans le CV, ça a autant d'impact que le niveau d'études pour moi.
Ok, tu nous parles de side project justement. Est-ce que tu aurais des exemples plus ou moins concrets de side project que quelqu'un qui s'intéresse au code pourrait essayer de mettre en place à la fois pour monter en compétence, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui a appris les bases d'un ou deux langages de programmation et qui se dit bon, bah maintenant qu'est-ce que je fais avec? Mais à la fois aussi des side project pour mettre sur son CV, pour montrer éventuellement après à un employeur ou à un client si cette personne-là veut se lancer en freelance. Est-ce que tu aurais peut-être deux, trois exemples de side project comme ça qui seraient pédagogues et intéressants à montrer sur un CV?
Alors j'ai une idée et puis après j'ai un tip qui pourra donner peut-être des idées aux personnes. Donc déjà l'idée qui revient le plus, hein, on en parle, il y a plein de personnes qui en parlent, mais c'est le principe de to-do list. Tu fais une petite to-do list et principalement l'idée en fait de ce genre de side project, c'est de toucher à toutes les mécaniques possibles. En fait, il faut que ton application, t'as pas besoin de faire un truc compliqué, mais il faut que ça montre le plus de tes compétences. Donc pas juste un design, mais si tu as moyen de faire le design qui relie à telle chose, puis à telle chose, il faut que tu mettes toutes les notions que tu connais pour montrer ce que tu sais faire en fait. Et d'une part, ça permet de s'entraîner, et d'autre part, le recruteur, il va voir ça, et il va se dire, ah bah super, du coup, il s'est utilisé ça, ça, ça. Donc maintenant, on peut voir un petit peu là où il allait chercher. Donc en fait, c'est cet aspect. Sortir un petit peu des sentiers battus et pas rester sur des projets que tu vois sur internet parce que tout le monde a fait le petit jeu, le petit juste prix, tout ça, mais bon, ça c'est pas des side projects forcément très intéressants. Si t'es plutôt dev web, vaut mieux partir sur un bon portfolio avec des petites animations, des trucs sympathiques, des petites features, des petits easter eggs qui montent en fait. Enfin, faut toujours ajouter du plus et de la valeur ajoutée à ce que tu fais, même si tu pars d'une idée qui existe déjà. Par exemple, la to-do list, 1 million de personnes l'ont fait, mais tu peux très bien trouver une petite feature à toi qui va rendre le truc vraiment plus intéressant que ça, quoi.
Ouais, et puis ce qui est intéressant dans le fait effectivement d'implémenter une feature à toi, une fonctionnalité à toi, c'est que d'une part, bah, y a peu de chances que tu trouves un tuto qui te permette de faire cette fonctionnalité de A à Z, mot pour mot, et en plus de ça, ça intègre un petit peu dans un sens de ta personnalité, et c'est vrai que montrer sa personnalité sur un CV, mais également à travers des projets, c'est toujours intéressant qu'on veuille devenir employé ou freelance ou peu importe. Ok. Et je reçois beaucoup la question quel langage de programmation apprendre quand on veut débuter? Et c'est une question à laquelle je sais jamais vraiment quoi répondre. Alors, je sais jamais vraiment quoi répondre en 2-3 lignes parce qu'il faudrait détailler un peu plus que ça. Mais qu'est-ce que tu répondrais toi à quelqu'un qui vient vers toi et qui te demande quel langage de programmation apprendre pour se lancer dans le développement.
Pour moi, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas, mais ce serait le même niveau de recherche que la plupart des vidéastes proposent. Ben oui, enfin, il n'y en a pas, quoi. Il faut arrêter de chercher. Je pense que les gens se prennent plus la tête sur Ah, quel langage choisir? Est-ce que c'est la meilleure techno? Ah, je sais pas si ce langage il va être remplacé ou pas. Non, enfin, faut. Tu prends le premier langage qui te parle et tu te lances dedans. Moi, je sais que par exemple, au début, j'ai commencé par Java, puis après, je suis parti sur du Python. C'est des langages qui sont quand même pas trop mal. Python est très bien pour commencer. Après, tu as du C++. Voilà, il y a plein de langages, mais il n'y a pas de meilleur langage et il n'y a pas de langage mieux pour commencer. En fait, ça va dépendre déjà de ton niveau de logique et de ta facilité avec l'informatique et de ton expérience personnelle. Mais je pense que les gens doivent arrêter de se poser cette question et plutôt entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est ça, moi j'aime bien répondre. Alors, la réponse courte, on va dire, c'est j'aime bien répondre que le langage, c'est un peu comme un outil. C'est-à-dire que tu vas pas demain aller dans un magasin de bricolage et te dire, bon, bah, je prends quel outil? Il faudrait peut-être d'abord se demander, est-ce que tu veux construire une cabane, une maison, un immeuble de 50 étages, et après se dire, bon, bah, je vais peut-être juste prendre un marteau et quelques clous, ou alors je vais peut-être investir dans une grue. Qui va me permettre de construire un truc un peu plus solide, quoi. Ok.
Mais il ne faut pas que les gens restent spectateurs de ça. Ça, c'est important parce que j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux qui posent cette question et justement, ils regardent ça d'un œil extérieur comme si c'était quelque chose d'ultra compliqué d'apprendre à programmer alors que pas du tout. C'est juste un investissement personnel comme si tu apprenais une langue ou autre chose. Mais enfin, il y a beaucoup de freins en fait à l'apprentissage, mais les gens se mettent le frein tout seuls, j'ai l'impression. Il y en a qui ont peur, quand je les aide, il y en a qui ont peur de rajouter une ligne de code parce qu'ils se disent, ah, je vais casser quelque chose. Faut pas avoir peur de se casser la gueule en fait quand on apprend.
Ouais, carrément. Et surtout, effectivement, là, quand on apprend, a priori, c'est qu'on n'est pas encore sur un projet qui est en production, qu'on n'est pas forcément déjà sur une application, qu'on travaille avec plusieurs collaborateurs. En général, on est tout seul dans notre coin. On lance des programmes sur notre ordinateur. Bon, il y a peu de chances que l'ordinateur se casse, qu'on fasse tomber un serveur ou qu'on fasse planter quelque chose, quoi.
Ouais, et d'autre part, il y a quelque chose d'important à noter, c'est que d'une part, c'est bien d'apprendre tout seul, parce que du coup, t'es pas influencé par les autres. Mais d'autre part, faut aussi pouvoir s'entourer des personnes qui peuvent t'aider s'il y a un problème. Donc en fait, faut trouver ce juste milieu. Parce que le problème, c'est que si t'as toujours besoin d'aide, tu vois, t'es quelqu'un qui, dès que tu fais ton code et que t'as une erreur, tu vas voir quelqu'un, du coup, tu vas être dépendant de lui, premièrement. Et d'autre part, cette dépendance, elle va te forcer à t'imprégner de son expérience, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas même plus réfléchir par toi-même. Tu vas d'abord lui demander pour dire est-ce que c'est bien, alors que ce serait mieux que toi, tu regardes si ça te correspond à toi, à ton besoin, quitte à après revenir un an plus tard et dire c'est de la merde ce que j'ai fait. Mais au moins, tu vois, tu comprends pourquoi c'est de la merde parce que tu as fait ta propre expérience entre-temps. Mais il y a beaucoup ce syndrome en ce moment, en mode. Bah voilà, c'est la même question de quel langage commencer pour coder, mais c'est la même chose pour est-ce que je dois prendre PHP ou un autre truc, ou Java ou un autre truc, faire des comparaisons à tout va. Pour moi, il n'y a pas de comparaison à faire. Tous les outils méritent d'être utilisés à partir du moment où tu sais pourquoi, dans quel cadre. Et voilà, il y a une personne qui disait, tu pourras peut-être mettre le nom, parce que j'ai pas le nom de la personne, enfin, c'est un nom un peu compliqué, c'est. Il n'y a que deux types de langages, il y a ceux dont tout le monde dit du mal et ceux que personne n'utilise. Et pour moi, c'est pareil aussi bien pour les langages que les outils, que les logiciels, c'est pareil partout. Si un langage n'est pas connu, si un langage est connu mais pas apprécié, bah, s'il est connu, c'est pour une bonne raison. Tu vois? Si PHP aujourd'hui, il y a plein de gens qui crachent dessus et c'est aussi parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. Sinon, enfin, ça va pas que dans un seul sens.
Ouais, tout à fait. Ok. Et est-ce que tu aurais un conseil, un petit tips ou éventuellement une ressource pour justement arriver à trouver d'une part des personnes qui peuvent t'aider, à qui tu peux poser des questions, et en même temps ne pas non plus, voilà, comme tu disais, être tout le temps derrière eux à leur poser des questions, à chercher tout le temps la validation. Est-ce que, enfin, comment tu conseillerais de mettre en place concrètement?
C'est une question un peu compliquée, mais en fait, si on veut donner une réponse simple, je dirais que il faut un maximum diversifier les supports. Parce qu'en diversifiant les supports, au lieu en fait de regarder, par exemple, tu vas apprendre à créer un site web. Bon, tu vas regarder sur Internet, tu vas trouver des tutos écrits, des vidéos, des e-books. Tu vas maintenant pouvoir diversifier le support en prenant un livre papier qui va t'apporter encore une autre vision. Plus, pourquoi pas, discuter avec quelqu'un de ça. Et en fait, pour moi, faut pas se rattacher juste à une vidéo, un texte, un tuto écrit ou un livre. Faudrait que tu regardes un petit peu tout ça et que tu fasses ta propre expérience avec ça. En fait, faut s'imprégner plutôt de ce genre de format plutôt que de les suivre mot pour mot. Il faut pas avoir peur d'essayer, d'une part, et d'autre part, faut pas avoir peur de se remettre en question sur ce qu'on a fait par la suite. Ça revient à ce qu'on a dit, c'est-à-dire que voilà, n'aie pas peur de copier-coller plein de fois ton code quand tu commences, parce que ça va marcher, parce que ce genre de choses, quand ça marche, quand tu commences, ça te donne une super satisfaction qui va juste t'encourager à aller plus loin. Moi, la satisfaction que j'ai eue quand j'ai fait mon premier site ou ma première application mobile ou autre chose, c'est une sensation que tu retrouves nulle part, en fait. Parce que tu dis, waouh, j'ai créé quelque chose de mes mains. Donc voilà, faut pas avoir peur de se lancer sur des petits projets pour pouvoir déjà se mettre en confiance, même si c'est pas forcément opti, même si c'est pas forcément les bonnes pratiques, même si tu recopies, au moins tu as fait ton projet, ça t'a donné l'envie. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plus donner l'envie aux débutants pour qu'ils puissent ensuite chercher par eux-mêmes et commencer à être autonomes en informatique, plutôt que juste de les aiguiller sur tel ou tel projet. C'est pour ça que sur ma chaîne, je propose plein plein de formats différents, c'est pour que les gens aient le choix.
Ok, top. Et effectivement, ce que tu me dis là, ça me fait penser à une anecdote assez récente. Moi, j'ai fait mon stage donc dans une boîte à Paris cet été, mon stage de fin d'études, donc en tant que développeur iOS. Et une grosse partie de ce stage, c'était du refactoring. Alors, le refactoring, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros prendre un code existant et essayer soit de le réparer, de l'améliorer, de le rendre un peu plus propre. Et en fait, cette application-là, donc sur laquelle j'ai travaillé, c'était une grosse application. C'était pas la petite application d'une startup qui avait 6 mois, qui était née 6 mois plus tôt et qui avait lancé une version de l'application très rapidement. C'était vraiment une application qui était utilisée par beaucoup de monde. Et pour autant, il y avait une petite partie de cette app qui était alors, on va pas dire sale entre guillemets, mais qui avait une très grosse marge d'amélioration. Et en fait, ça rejoint un peu ce que tu disais dans le sens où il faut juste se lancer. Alors, certes, il y a des bonnes pratiques, certes, il y a des schémas à suivre plus ou moins quand on veut développer une application professionnelle entre guillemets, mais il faut pas non plus trop se prendre la tête en se disant il faut absolument que ce soit comme ça, mais comme moi je sais pas à quoi ressemble le comme ça, bah je vais pas me lancer. On peut déjà lancer une première version et après il y aura toujours des améliorations possibles à faire. Ok, bah je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que je voulais aborder avec toi. Est-ce que t'aurais une ressource, un livre, un site web, une série, un film, un podcast, enfin peu importe, une ressource particulière que t'as bien aimée, qui t'a inspiré et que t'aimerais partager aux auditeurs?
Stack Overflow. Voilà, moi c'est, je jure que par ça. Donc à partir de là, voilà, c'est la bible des développeurs, ça.
C'est vrai que il faut pas, ouais, je pense qu'on va terminer sur ça et surtout insister sur ça pour la fin de cet épisode, insister sur le fait que il faut pas hésiter en fait à chercher sur Google, sur n'importe quel autre moteur de recherche, à se dire ok, j'ai une question, je sais pas comment faire, bah je vais chercher. Et c'est vrai que à plusieurs reprises, on se demande si un développeur est bon parce qu'il passe sa journée sur Stack Overflow. Mais je pense que justement, c'est la réponse, c'est oui, il est bon parce qu'il passe son temps sur Stack Overflow. Parce que justement, pour moi, un développeur, c'est pas quelqu'un qui connaît tout par cœur, c'est quelqu'un qui sait où aller chercher ou en tout cas où poser la question pour résoudre un problème ou pour avoir la réponse à une question qu'il a, quoi.
C'est pas que quelqu'un qui fait que pisser du code toute la journée. Ça, il faut le noter parce que quand certains regardent nos vidéos, même j'imagine chez toi, avec les formats que tu fais, ils doivent se dire waouh, ça défile dans tous les sens, ça doit être compliqué. Moi, il y en a qui me font regarde Graven, j'ai fait un code avec 5000 lignes de code. Ouais, mais être développeur, c'est pas juste avoir le plus de mots dans ton code, c'est savoir ce que tu fais et trouver un moyen le plus simple possible de faire ça. Moi, par exemple, là, avant de faire ce petit podcast, je préparais un format que j'essaye de faire. En fait, je vais montrer aux gens comment faire un jeu d'échecs en Python. Et voilà, j'ai eu l'idée hier soir, je me suis dit, bah écoute, on va faire ça. C'est intéressant. Je vais pouvoir apporter une approche débutant et puis aussi j'évite de me spoiler en regardant des vidéos. Mais tu vois, là je regarde un petit peu comment ça marche sur Internet. Je découvre en même temps les règles du jeu d'échecs, plus en détail sur le côté technique. Mais voilà, tout ça c'est des expériences bonnes à prendre. Même si tu n'arrives pas à mener ton projet au bout, l'important c'est le chemin, c'est pas l'objectif quoi.
Ok, et tiens, rapide question, comme tu es sur un projet actuellement depuis hier soir, apparemment c'est top. Combien de temps, quel est le pourcentage de temps selon toi que tu passes sur un projet à coder, mais vraiment à écrire des lignes de code?
Alors moi c'est compliqué parce qu'en fait tous mes side projects c'est pour YouTube. Simplement. Donc en fait moi en même temps que je prépare l'application ou ce que je veux montrer, j'essaye déjà d'anticiper aux débutants comment je vais l'expliquer et comment je vais le découper pour qu'à la fois ils comprennent mais à la fois ce soit correct techniquement pour les personnes plus avancées. Et ça c'est un curseur assez compliqué à trouver et je pense que c'est un des trucs plus compliqués dans mon taf aujourd'hui, c'est que d'une part, il faut que les débutants comprennent et que ce soit limpide pour eux, que ce soit pas du charabia, et d'autre part, faut que les personnes un peu plus haut niveau qui regardent le code puissent aussi comprendre ma démarche. Parce qu'il y en a beaucoup qui passent le cap de débutant intermédiaire et qui vont regarder des vieilles vidéos à moi, mais justement, moi j'avais pas cette approche-là au début. Donc c'est très facile de critiquer un tuto pour les débutants. Parce que pour toi c'est quelque chose de simple et tu dis bah le mec qui monte ça bah il est nul en fait. En fait non c'est pas que je suis nul, c'est juste que moi ma cible c'est les débutants et je préfère me concentrer sur eux puisque pour moi c'est ceux qui ont le plus besoin d'être accompagnés au début. Et ce qui fait le passage entre un développeur débutant et un développeur avancé, pour moi c'est cette autonomie à chercher par soi-même. C'est juste ça. Donc ça veut dire demain, tu peux. Il y a un débutant qui vient me voir demain, il me montre un truc, ok. Et il revient une semaine après, il me fait comprendre que voilà, il sait maintenant chercher par lui-même, il arrive à trouver la petite brique qui lui manque pour finir ça et tout. Pour moi, c'est un développeur avancé. Pour moi, il y a pas de troisième catégorie. C'est juste, t'es débutant, tu découvres les notions et t'es autonome pour créer tes propres briques de code.
Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est aussi pourquoi, ça explique pourquoi on trouve pas de formation qui soit extrêmement avancée dans des détails très techniques sur Internet.
Ça aurait aucun intérêt. Ça aurait aucun intérêt de faire des tutos pour les plus avancés. Parce que d'une part, ça toucherait pas assez de monde. Et d'autre part, c'est quelque chose que si t'es avancé, tu peux le chercher, tu peux le trouver rapidement. Puisque la plupart des documentations sont pas trop mal faites. Bon, à part certaines, on va pas les citer. Mais globalement, si tu sais chercher, tu vas pouvoir trouver ce format-là. Le format vidéo, c'est vraiment un format qui permet d'accompagner une personne du début de l'installation de ses logiciels jusqu'à la création de son premier projet. Et le but, moi, de mes vidéos, c'est pas de faire devenir à tous les gens qui regardent des développeurs ultra forts, c'est de leur susciter l'intérêt et que si après ils ont envie d'aller plus loin, ils peuvent creuser. Mais voilà, moi, c'est pour ça que je reste sur cette cible principalement.
Ok, top. Bah merci en tout cas pour toutes ces réponses et pour ce backstage, on va dire, de la vie d'un youtubeur. Alors je veux pas non plus te catégoriser derrière ce terme-là parce que tu fais beaucoup de choses. Rapidement, où est-ce qu'on peut te trouver du coup sur internet, les gens qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais?
Alors moi du coup c'est sur YouTube, la chaîne Graven Développement. Sinon sur Twitter, Gravenilvec, @Gravenilvec. Il y a aussi une page Facebook et sur TikTok c'est Apprendre Dev. Voilà. Donc plein de formats différents pour différents trucs d'apprentissage. Bah, sur TikTok justement, là je peux explorer encore plus de sujets parce que comme il n'y a pas de limitation en termes de format, tu vois, YouTube, il faut quand même faire un format assez propre, il faut faire du montage, machin. TikTok, si quelqu'un me pose une question, paf, je peux répondre dans la minute et lui faire une petite vidéo adaptée pour lui. Et ça permet encore d'ouvrir le champ des possibles là-dessus.
Ok, parfait. Bah, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Merci à toi en tout cas, et peut-être éventuellement à bientôt pour un prochain épisode ou dans d'autres projets qu'on pourra suivre sur YouTube ou sur tous tes réseaux sociaux.
Merci à toi.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement ou même à partager l'épisode à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. Merci pour votre écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.